Bonjour à tous, et avant que ne démarre cet épisode de No Pay No Play dans lequel on va parler d'un compte e-commerce qui avait un petit problème de retargeting et qu'on a évidemment réglé, je voudrais juste vous demander si No Pay No Play vous convient, si vous apprenez des choses grâce à ce podcast Facebook Ads, eh bien n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, un 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide évidemment, et puis comme ça on sait que ce qu'on vous propose comme contenu vous convient et on peut aller de l'avant sur encore plus de concepts de ce style. Voilà pour la petite introduction. On démarre tout de suite le podcast.
The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.
Senator, we run ads.
Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, le podcast qui vous aide à passer de 0 à 1000 dollars ou 1000 euros de budget par jour sur la plateforme. Il vous est proposé par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, comme à mon habitude. Par contre, c'est la toute première fois que je reçois mon invité, à savoir Ryan Majori, média buyer chez J7 Media. Comment ça va, Ryan?
Mais écoute, ça va très très bien. Merci, Antoine.
Ça fait quoi d'être sur un premier podcast? Alors, tu m'as dit en off que tu avais déjà fait quelques podcasts, mais comment tu te sens là pour cette première?
Bah écoute, je suis très content de pouvoir participer aussi au podcast donc de J7 Media. C'est la première fois ici, mais moi j'avais un petit peu d'expérience sur des podcasts perso avec des amis par le passé.
Ah, le podcast, c'est la vie, hein, vraiment. Oui. C'est la vie. C'est tellement agréable de proposer du contenu qui aide les gens ou qui au moins intéresse les gens. Donc, je comprends que tu t'es lancé sur d'autres projets avec le podcast. Toi, pour revenir un peu à notre sujet du jour, comme j'ai pu l'expliquer un petit peu en introduction, tu vas venir nous parler d'une étude de cas concrète que tu as pu vivre avec J7 Media via le biais d'un annonceur, qui a eu un espèce de problème de retargeting, mais on va avoir l'occasion d'en parler vraiment précisément dessus. Est-ce que tu peux commencer peut-être par nous présenter un peu l'annonceur? C'est quoi son type de business? Qu'est-ce qu'il fait sur Facebook?
Alors, pour le coup, le client que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un e-commerce, donc qui vend des produits pour la santé féminine, tout simplement. Donc, c'est sur toute leur durée de vie. Donc, que ce soit des règles, en passant par la maternité, puis également... Ouais. La ménopause.
D'accord, ok. Et sur Facebook Ads, qu'est-ce qu'il fait généralement?
Alors pour le coup, il propose toutes les gammes de produits disponibles sur son site. Et d'ailleurs, l'extrême majorité de son trafic vient de Facebook.
D'accord, donc c'est un e-commerce qui utilise déjà Facebook Ads, dont la majeure partie de son trafic et probablement de ses ventes proviennent de cette même plateforme publicitaire. Toi, lorsque tu arrives sur ce compte publicitaire, qu'est-ce que tu observes?
Alors, lorsque je suis arrivé sur ce compte, on avait un objectif de CPA, donc de coût par achat, qui était de maximum 20 euros. Et au moment où j'ai pris connaissance du compte, nos CPA tournaient aux alentours de 9, 10 euros, ce qui était vraiment très, très bien. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur le compte, c'est que les exclusions n'étaient pas faites sur les audiences de trafic froid. Et ce qui veut dire qu'on se retrouvait avec des personnes qui avaient déjà vu nos pubs dans les campagnes, qui étaient censées présenter nos produits à de nouvelles personnes. Forcément, lorsqu'on s'est rendu compte de ça, on a décidé de faire cette exclusion, car les résultats étaient donc surestimés sur nos campagnes de trafic froid. Et sans surprise, hein, les résultats se sont complètement effondrés. On s'est retrouvé avec des CPA à 21 euros en comparaison des 10 qu'on avait avant.
Alors, tu nous dis 21 euros, sachant que ta limite est de 20. Mais pour la situation, donc, l'annonceur pense qu'il a de très bons résultats avec Facebook. Mais lorsque tu regardes les audiences, t'observes qu'il avait juste pas fait d'exclusion. Donc, tes campagnes d'acquisition font à la fois de l'acquisition et du retargeting. C'est impossible pour nous derrière de savoir qu'est-ce qui est fait au moment M. Donc toi, tu décides de faire des exclusions et du coup, bah nécessairement parce que tu as enfin de l'acquisition pure et dure, c'est-à-dire que tu as exclu tes audiences chaudes, tu as une hausse de coût. Et c'est quoi la suite pour toi?
Bien, il y a du bon comme du mauvais. Maintenant qu'on a des audiences de retargeting de qualité, on a pu travailler dessus, car c'était d'ailleurs ce qui pêchait un petit peu sur le compte. Sauf qu'en parallèle, on s'est retrouvé avec un nouveau challenge qui était qu'on avait certes des campagnes de retargeting qui étaient maintenant performantes, mais on avait du coup ce challenge de devoir refaire fonctionner les campagnes d'acquisition, donc en audience froide. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai fait pas mal de tests, notamment au niveau des créatives sur les campagnes de trafic froid et une très légère augmentation du budget sur les campagnes de retargeting que j'ai laissé après tourner. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai testé de nouveaux concepts, notamment au niveau des créatifs, des concepts plus agressifs qu'on n'avait pas forcément sur le compte. Là où avant, on avait une communication qui était plus positive, solution-oriented, douce, etc. Là, j'ai voulu changer un petit peu de manière de faire et apporter une communication plus portée sur la douleur, l'inconfort des règles, de la maternité, mais également de la ménopause. Et voilà, le but était vraiment, avec cette nouvelle structure, de repérer les campagnes et les créatives, les concepts qui sortaient du lot et les laisser tourner, tout en coupant celles qui étaient bien sûr au-dessus de notre objectif. Et en somme, donc, j'ai testé pas mal de choses très rapidement, quitte à surdépenser sur une courte période de temps, environ une semaine et demie, deux semaines, car je voulais rapidement trouver une structure gagnante sur laquelle appuyer tous nos tests futurs et nos itérations futures. Mais je voulais surtout en fait faire descendre les CPA pour retrouver les très très belles performances qu'on avait avant.
Bien sûr. Petite question avant que tu nous donnes les résultats. Tu parles de campagne de retargeting. Est-ce qu'il y en avait avant que vous commenciez à faire vos optimisations ou pas du tout? C'était vraiment, il y avait ces audiences d'acquisition, ça faisait tout et un peu n'importe quoi. Comment elle était la structure de ce compte en termes de campagne pure?
Alors en termes de campagne pure, pour le coup, il y avait beaucoup de trafic froid parce que ça marchait très très bien. On avait une campagne de retargeting en MOF. On n'avait pas de BOF.
T'entends par MOF et BOF, juste pour expliquer aux gens qui nous
écoutent? Bien sûr. Donc, trafic froid, c'est top of funnel, TOF, MOF, middle of funnel, et BOF, bottom of funnel. Donc, c'est vraiment le retargeting, on va dire, qui est brut sur les personnes qui ont ajouté au panier, notamment en BOF. Et du coup, on n'avait pas de campagne BOF. Et sur la campagne MOF, on avait 15€ de budget journalier. Donc, c'était très, très peu. Donc, la majorité était véritablement sur le trafic froid. Donc, du coup, j'ai pu...
En théorie, ouais.
Voilà, refaire la structure du compte à ce niveau-là.
D'accord. Et en termes de... Du coup, tu as parlé aussi des créatifs. Tu étais principalement sur tes campagnes avant ton arrivée. C'était principalement des campagnes avec des publicités un peu positives, bénéfices, etc. Et toi, t'as essayé quelque chose qui n'était pas encore, qui n'avait pas encore été testé sur le compte, à savoir plus rentrer dans la douleur, l'inconfort, comme t'as pu dire. T'as pas eu peur justement d'avoir, je sais évidemment pas quels sont les visuels proprement parler que tu as utilisés, mais t'as pas eu peur justement de te faire bloquer par Facebook parce que je sais pas à quel point t'as pu montrer certaines choses, montrer des schémas, je sais pas.
Alors j'avais un peu cette crainte, oui. Mais de par l'historique du compte, on n'a eu aucun problème avec Facebook et je me suis dit que le fait de changer d'approche, c'était aussi une bonne manière de tester un petit peu les limites du compte.
Bien sûr, ouais.
On était déjà dans une structure qui n'était pas la meilleure. Donc je me suis dit, bon, s'il y a déjà un risque, on va dire, c'est pas si grave si je prends un autre risque maintenant. Donc on a pu tester, bien sûr, tout en restant dans les limites de ce que préconise Facebook et en respectant ses guidelines. Mais oui, on a pu tester de nouvelles choses qui ont, pour le coup, porté leurs fruits.
D'accord. Et en termes d'audience aussi, je continue à vraiment rentrer dans l'exécution avant que tu nous donnes les résultats, mais tu avais ces campagnes d'acquisition qui n'avaient pas d'exclusion. Tu ajoutes des exclusions, donc tu observes une augmentation de tes coûts par résultat, en tout cas sur l'acquisition pure et dure. Tu te lances dans du testing de créatif avec les concepts que tu viens de nous expliquer. Et du coup, sur ces testings de créatif, quelles sont les audiences que tu utilises? Est-ce que c'est les audiences que tu as vues précédemment qui fonctionnaient malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'exclusion? Donc en fait, c'est à la fois de l'acquisition et du retargeting. Où tu vas chercher des toutes nouvelles audiences?
Pour le coup, les audiences, je n'ai pas voulu les toucher. Donc, on est resté sur du 100% broad, puisque c'est pas quelque chose qui fonctionnait sur ce compte, les intérêts. Donc, je suis vraiment, pour maximiser, en fait, nos chances de réussite, j'ai vraiment voulu rester sur ce qui fonctionnait le mieux jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les audiences broad.
D'accord. Puis c'est intéressant aussi parce que tu as un produit qui, en somme, se vend à absolument tout le monde, ou du moins une très, très, très grande, très large partie de la population. Donc, c'est vrai que les intérêts, ça peut être du plus, mais en soi, t'as un besoin qui est extrêmement large. Donc, je le répète, tu arrives, tu mets des exclusions, tu observes une augmentation des coûts et ensuite tu fais des tests de créatifs, sachant que c'était des créatifs et des concepts et surtout une approche marketing qui n'existait pas ou qui n'avait jamais été mis de l'avant sur ce compte. C'est quoi les résultats suite à ces optimisations?
Ouais. Alors, après deux semaines d'augmentation constante et de tests, donc ils se sont pas mal intensifiés, notamment sur la fin de la deuxième semaine. Je voulais profiter du week-end. On est arrivé du coup le vendredi de la deuxième semaine avec des CPA qui étaient bien plus encourageants. Ça commençait à descendre et on était toujours aux alentours de 18 euros de CPA de mémoire. Il y avait donc une amélioration. Alors ce que j'ai fait sur la troisième semaine, c'est que j'ai pris aucune action. J'ai juste laissé tourner le compte pour avoir assez de recul sur la structure de test que j'avais mis en place. Et toutes les campagnes, bien sûr, et tous les créatifs qui n'obtenaient pas de bons résultats étaient coupés. Et durant cette semaine, où le compte a pu dépenser plus librement sur ce qui fonctionnait, donc on est passé d'un total de 21 euros de CPA, donc qui était le maximum qu'on avait obtenu historiquement sur ce compte, à un total de 12 euros de CPA pour les campagnes de trafic froid. Et pour donner peut-être un autre résultat qui est un peu plus parlant, même si le changement voilà, de CPA est quand même pas mal. Sur la deuxième semaine, donc qui était la pire, en termes de dépenses et de résultats, on avait dépensé 3400 euros pour Facebook, pour un total de chiffre d'affaires de 46 000 euros. La troisième semaine, donc celle qui était la meilleure et celle qui a validé tous nos tests, on avait dépensé 2400 euros, soit 1000 euros de moins, pour un total de 42 000 euros. Donc, quasiment le même résultat pour 1000 euros de dépenses en moins.
C'est énorme. Et du coup, juste pour bien comprendre, sur les deux premières semaines, donc là où tu fais tes tests, t'as cette augmentation du CPA. La troisième semaine, c'est là où tu vas chercher, disons, un peu ton record en termes de retour sur investissement. Et là, tu nous mentionnes que sur la troisième semaine, tu ne fais absolument rien, si ce n'est que couper des pubs qui fonctionnent juste pas. Mais tu n'ajoutes rien.
J'ai rien ajouté. En fait, comme il y a eu cette journée du vendredi de la deuxième semaine où on s'est rendu compte que la structure commençait à fonctionner, on avait vraiment besoin d'avoir cette dernière semaine, donc la troisième, on pouvait juste laisser le compte tourner pour avoir assez de data pour pouvoir se dire « Ok, la structure fonctionne, on va maintenant pouvoir passer à d'autres tests ou d'autres choses. » Mais si on avait tout de suite continué ou réenchaîné sur de nouveaux tests, on n'aurait pas pu être certain que cette nouvelle structure-là fonctionne puisqu'on aurait été dans le doute.
Bien sûr, ok. C'est assez significatif, je dirais, d'un travail de media buyer aussi. C'est d'arriver à prendre du recul sur la situation, ne pas enchaîner parce que peut y avoir de l'amélioration et c'est aussi pour cette raison que il y a ce qu'on appelle la phase d'apprentissage, notamment des campagnes publicitaires. La phase d'apprentissage, c'est un processus naturel entre guillemets de la part de Meta quand vous lancez une campagne. C'est-à-dire que il va tourner cette publicité, tourner cette audience, voir comment il peut l'optimiser. Et si vous êtes assez bon, sortir de la phase d'apprentissage et du coup avoir les meilleurs résultats estimés de la part de Meta, ou à l'inverse, du coup ne pas sortir de cette phase d'apprentissage et tomber dans un espèce de cercle un peu vicieux là-dessus. Toi, t'as justement pris cette décision de ne plus rien toucher pour que Meta ne soit pas constamment impacté par tes modifications, bien que tu coupes des trucs qui fonctionnent pas, mais bon, ça fonctionne pas, donc ça donne juste plus d'argent à ce qui fonctionne. Ça, c'est hyper important. Et un autre point que je viens malheureusement d'oublier, c'est un petit peu embêtant pour moi, mais aussi, un autre point, tu évacues des doutes dans le sens où tu lances de nouvelles publicités, mais tu gardes quand même tes anciennes audiences parce que tu estimes qu'elles ont quand même fonctionné malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'exclusion à ce moment-là. Donc, deux gros facteurs, je dirais, qui définissent un peu le travail du media buyer, savoir prendre du recul et éviter de s'ajouter des doutes quant à ses propres tests. Donc, c'est vachement intéressant ton point. Et là, à l'heure actuelle, donc tu as des meilleurs résultats. On l'a vu, tu es passé de 21 à 18 à une dizaine d'euros le coût par achat. À l'heure actuelle, qu'est-ce que tu comptes tester ou qu'est-ce que tu es en train de tester sur ce compte pour encore améliorer les résultats ou optimiser la suite en fait?
Ouais, alors là du coup sur le compte, ce qu'on fait actuellement, maintenant qu'on a une vraie structure qui fonctionne et on a des étapes du funnel qui sont bien structurées et qui sont valides, c'est que pour scaler le compte, ce que j'aimerais faire, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, c'est de tester de nouveaux types de campagnes, notamment l'Advantage Plus, qui a très peu été utilisé sur le compte. Donc du coup, c'est vraiment plus donner la main à l'algorithme. Maintenant qu'on a une structure qui est solide, l'algorithme peut aller chercher de bien meilleurs résultats que ce qu'on pourrait faire nous-mêmes un peu avec nos petites mains et les quelques infos qu'on a nous. Et également, mon challenge principal sur ce compte, c'est faire fonctionner une gamme en particulier qui sont les culottes menstruelles, qui sont très importantes pour le client, mais qui sous-performent depuis le début. Et c'est vraiment pour moi le challenge principal de ce compte. Et je fais pas mal de tests par rapport à ça, notamment au niveau des créatives. J'ai testé notamment de faire des catalogues, peut-être venir proposer uniquement retargeting à différentes étapes du funnel. Donc, c'est voilà vraiment mon objectif principal, c'est vraiment de faire fonctionner cette gamme-là. Et notamment pour ça, pour ce qui est de la créative, on a pu travailler avec notamment notre directrice artistique pour de nouveaux concepts, puisque pour le coup, ça avait bien fonctionné, de changer un petit peu notre manière de communiquer. Donc, je travaille encore pas mal là-dessus.
Encore deux leçons que je peux tirer de ce que tu viens de répondre. Pour un e-commerce, du moins, dès lors que vous avez des bonnes publicités, bah, lancez-vous sur une Advantage Plus, testez-le, parce que la Shopping Advantage Plus, pour donner son terme, son nom entier, c'est vraiment le type de campagne qu'on va lancer dès lors qu'on a de bonnes publicités de base. Ça va être un booster, un accélérateur de croissance, je dirais. Et deuxième point, lorsque tu as une base solide, ce qui est ton cas à l'heure actuelle, tu vas commencer à segmenter tes campagnes par gamme de produits ou même type de produits. Là, c'est ce que tu es en train d'essayer de faire. On l'a vu que sur Social Skinning, qui est notre autre podcast, plus expert en Facebook Ads, disons, qui là, on va parler de plus gros scale, plus gros budget. C'est littéralement dans la situation dans laquelle on est sur des gros e-commerce, à savoir on segmente par sous-catégorie de produits, par collection, etc., etc., pour être plus pertinent, pour être plus performant et pour évacuer tout ce qui ne fonctionne pas malgré nos tests. Donc, hyper intéressant, hyper académique, cette étude de cas. Est-ce que tu as des derniers conseils à nous donner, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de cet épisode? Et que t'aimerais partager justement avec les personnes qui nous écoutent.
Alors peut-être plus général sur buying et sur Facebook, il y a deux choses qui moi ont été vraiment game changer dans ma manière d'aborder la plateforme. C'est la première, c'est rappelez-vous que vous vendez à des êtres humains. Lorsque l'on travaille sur cette plateforme là, on voit que des chiffres en fait, et on peut assez rapidement oublier que derrière, bah c'est à des êtres humains qu'on vend, c'est des êtres humains qui voient nos publicités. Donc toujours avoir beaucoup d'empathie, se mettre à leur place, notamment lorsque l'on réfléchit à de nouvelles créatives, de nouveaux wording, ce genre de choses. Et la deuxième, c'est pour le coup ce que j'ai appliqué encore une fois sur ce compte-là. Moins il y a de doutes, c'est mieux c'est. Gérer vraiment une stat à la fois. D'abord, on règle les créatives, après on règle les audiences, après on règle peut-être les CTA, ce genre de choses. Mais véritablement, ne travailler que sur un seul paramètre à la fois. Ouais. Voilà, c'est peut-être les deux choses qui ont été très importantes pour moi.
Ouais, c'est excellent. Je rappelle, moins de doutes, prendre du recul, tester un maximum, centraliser les bons éléments que vous avez trouvés dans des campagnes plus grandes comme, pour toi, la Advantage Plus. Et dès que vous avez une base solide, commencez à segmenter votre offre par produit, par catalogue, par sous-catégorie, etc., etc. Donc, vraiment super académique. Et ne vous faites pas avoir par le retargeting, ne vous faites pas avoir par des campagnes, il n'y a aucune exclusion. Et vous dites, ah, trop bien, bah, j'ai des super bons résultats. Oui, mais non, parce qu'en fait, bah, la plupart de vos résultats proviennent du retargeting et on le voit dès lors qu'on met une exclusion. Lorsqu'on est sur du trafic froid, c'est pas les mêmes résultats. Donc, faites attention à ça parce que dans tous les cas, la croissance va provenir de l'acquisition que vous faites avec la plateforme. Ryan, merci beaucoup pour ton intervention. C'était nickel. Est-ce que tu as un dernier conseil ou dernière chose à dire avant qu'on rende l'antenne?
Écoute, pour moi, c'était good. Merci à toi pour l'invitation. Ouais. Ça fait un vrai plaisir.
On va réitérer. Hein, si tu as d'autres études de cas de ce style,
avec grand plaisir.
Super. Bon, écoute, merci beaucoup, Ryan, d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis sur No Pay No Play. Je vous rappelle, si l'épisode vous plaît, si le podcast vous plaît et vous aide à devenir meilleur en Facebook Ads, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et aussi pour ceux qui ont envie de devenir meilleur tout de suite sur Facebook Ads, je vous invite à aller regarder la J7 Academy, notre écosystème qui aide justement des media buyers à devenir meilleurs sur Facebook Ads, mais surtout le rester. Pour en savoir plus, j7academy.com. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite. The number one deal is Facebook Ads. They are underpriced. Under we run ads.